Et on s'informe de ce qui se passe dans la planète sport, bien sûr avec Olivier Beauregard. Bonjour Olivier.
Salut Francis.
Bon, nouvelle qui a tombé au courant de la journée, je pense que c'est en fin de matinée, congédiement de l'entraîneur-chef des Maple Leafs de Toronto.
Oui, puis je pense qu'il n'y a personne qui est tombé en bas de leur chaise en entendant ça, parce que quand les Leafs de Toronto ont été éliminés aux mains des Bruins de Boston récemment, là, on s'attendait vraiment à ce qu'il y ait des changements, parce que les Maple Leafs de Toronto, c'est deux équipes en fait. C'est une équipe en saison régulière qui connaît énormément de succès. Oui. T'sais, cette saison, c'est 46 victoires, 26 défaites et 10 défaites en surtemps. Alors, c'est une statistique, c'est une fiche qui est complètement incroyable pour une équipe de hockey. C'est enviable pour toutes les équipes qui évoluent dans la Ligue nationale. Par contre, en séries éliminatoires, c'est très difficile pour les Leafs de Toronto de passer le premier tour, tellement que depuis que Sheldon Keefe est à la barre de cette équipe-là, eh bien, en 5 parcours éliminatoires, c'était une 4e élimination au premier tour. L'an dernier, il avait réussi à jouer le tour contre le Lightning de Tampa Bay pour justement les s'incliner en deuxième ronde contre les Panthers de la Floride.
Oui, si je me souviens bien, ça n'avait pas pris de temps non plus en deuxième ronde.
Non, c'est ça, exactement. Ça s'était fini en 5 matchs. Là. On avait remporté seulement un match du côté des Leafs. Et cette saison, ben tu sais, ils ont vraiment bien joué. Là, on a chauffé les Bruins de Boston jusqu'à un 7e match, mais malheureusement pour eux, ben ça s'est terminé là. Et là, ben évidemment qu'il y avait des comptes à rendre, parce que quand tu as une formation comme ça, avec une masse salariale qui est pratiquement au plafond, que t'as plus d'espace, que tes joueurs vedettes là, commencent à justement montrer des signes de frustration rapidement du segment Mitch Marner, William Nylander pendant les séries. On voyait que la frustration était à son comble, parce que cette équipe-là s'est dit, c'est pas vrai encore cette année qu'on va s'incliner au premier tour, et malheureusement, c'est ça qui est arrivé. Alors, faut que quelqu'un écope dans ce temps-là, Francis, et là, c'est Sheldon Keefe, l'entraîneur-chef. C'est malheureux pour lui. Je pense que Sheldon Keefe a fait un boulot exceptionnel, surtout en série, pas en série, mais plutôt en saison régulière. Comme je le dis, là, c'est des fiches tout simplement exceptionnelles. À la barre des Maple Leafs de Toronto, là, c'est pas compliqué, là. C'est 212 victoires, 97 défaites et 40 défaites en surtemps en 349 matchs. Là, c'est complètement incroyable. Quand tu regardes une fiche comme ça d'un entraîneur, tu te dis, ce gars-là est en business pour le restant de sa carrière. Oui. mais malheureusement, Toronto, c'est un marché chaud. C'est un marché qui est très médiatisé. Alors, fallait que ça bouge. C'est Sheldon Keefe qui est écopé. C'est toujours comme ça. C'est l'entraîneur-chef qui écope. Maintenant, dans les bureaux administratifs, je pense que le ménage n'est pas terminé. Est-ce qu'il va y avoir des gars qui vont perdre leur job? Écoute, genre, je pense à un gars comme Brendan Shanahan. C'est lui qui a monté un peu cette équipe-là avec Lou Lamoriello à l'époque. Là, Brad Treveling est nommé directeur général. Est-ce qu'il va vouloir justement faire un peu de ménage? Est-ce qu'il va dire justement, ben c'est terminé l'association avec Brendan Shanahan? Je ne sais pas. Là, ça va être aux Maple Leafs de Toronto de bouger dans ce sens-là. Mais je pense pas que c'est la dernière fois qu'on va voir ça. Mais tu sais, la raison pour laquelle je vous parle de ça aujourd'hui, c'est pas nécessairement à raison des Maple Leafs, parce que les Maple Leafs, on connaît la pression, cette équipe-là a une fenêtre pour gagner qui rapetisse là de plus en plus. Là, je veux dire, éventuellement, ils seront pas capables de garder le cap au niveau de la marge salariale. Il va falloir faire des choix déchirants. Mais je veux surtout vous parler de Sheldon Keefe, parce que je vous le disais, c'est un gars qui a eu une fiche vraiment reluisante. Oui. Il a été élevé au sein de l'organisation des Maple Leafs. Là. Avant d'arriver à Toronto, ce gars-là coachait les Marlies dans la Ligue américaine, les Marlies de Toronto. Alors, c'est un gars qui a été élevé dans l'organisation. Il a passé 9 années complètes avec l'équipe. Alors, c'est énorme. Et moi, j'ai comme l'impression qu'il va se retrouver un job assez rapidement. Parce que quand on regarde des postes vacants dans la Ligue nationale...
Ben, c'est ça que j'allais dire. Là. Il y en a plusieurs entraîneurs-chefs là, des équipes qui sont sans entraîneur-chef en ce moment.
Exactement. Là. Il y en a 5 là, pour l'instant. On parle des Devils du New Jersey, des Sharks de San Jose, on a le Kraken de Seattle, évidemment les Maple Leafs de Toronto et les Jets de Winnipeg. Alors, voyons voir, est-ce que Sheldon Keefe pourrait être considéré pour un autre job? Moi, je pense que oui. Par contre, il a l'embarras du choix. Il n'est pas pressé de se trouver un job, parce que ce gars-là, rappelez-vous, à la fin de la dernière saison, le 30 août, là, plus tôt, il avait signé une entente de 2 ans, une prolongation de contrat de 2 ans qui devenait effective cette année, à la fin de son présent contrat. Alors lui, là, il a un contrat de 2 ans qui commence maintenant. Puis, il n'est pas pressé de se trouver un job. Il est encore payé pour les 2 prochaines années. Alors, il y aura le luxe et le choix de choisir son endroit. C'est-à-dire que là, si tu as des équipes qui t'approchent, est-ce que c'est dans des bonnes conditions? Est-ce qu'on te laisse t'entourer de ton équipe? Ou est-ce qu'on dit, on te donne une équipe gagnante, une équipe compétitive? Ben là, c'est lui qui va pouvoir choisir un petit peu. Mais j'ai comme l'impression qu'avec la fiche qu'il a avec les Maple Leafs, ayant travaillé dans un marché chaud comme Toronto, ça va être alléchant puis pas mal attirant pour des équipes de la Ligue nationale. Moi, je le vois à Winnipeg. Est-ce que c'est vraiment là? Est-ce que c'est vraiment là qu'il va aller? Ben là, ça, c'est dur à dire. Je sais que les Devils du New Jersey pourraient être une destination pour lui également, mais les victoires au New Jersey pour les prochaines années risquent d'être un petit peu plus difficiles. Bref, ça va être intéressant. C'est un dossier à suivre. Il y a beaucoup d'entraîneurs là, qui sont dans le moule. On sait que les sénateurs d'Ottawa ont engagé M. Green au courant des derniers jours. Ça n'a pas fait l'unanimité. Est-ce que Sheldon Keefe aurait été un bon candidat si Green, plutôt s'il avait été congédié avant? Peut-être. Mais bref, je ne vous parlerai pas de Green et des sénateurs. Je vais vraiment rester ça sur Sheldon Keefe et vous dire que je suis confiant qu'il va se trouver un job assez rapidement parce que ce qu'il a fait à Toronto, c'est vraiment exceptionnel. Il a vraiment réussi à remporter des matchs, à garder le cap en saison régulière, malheureusement, ce qui va le salir un petit peu. C'est son dossier en séries éliminatoires.
On va revenir au hockey dans quelques minutes, mais juste avant, on va faire un petit détour vers le soccer en MLS. On va parler de la gestion du CF Montréal.
Oui, absolument, parce qu'on a appris cette semaine que l'association entre le CF Montréal et Olivier Renard, qui était vice-président, lui, est chef de la direction sportive, c'est terminé, tout simplement. Ça a été dévoilé là un peu plus tôt cette semaine, et je vais te dire une chose, ça a laissé pas mal d'experts un peu sur leur faim, parce que Olivier Renard est arrivé en 2019. Il a fait vraiment un bon boulot. Il a eu des dossiers chauds dans les mains. C'est lui qui a engagé Henry là, comme entraîneur-chef. Thierry Henry, voilà, comme entraîneur-chef. Après ça, il a donné une chance à Wilfred Nancy, qui, lui, a connu vraiment une année du tonnerre avec le CF Montréal. Honnêtement, ce gars-là, c'est vraiment malheureux, mais il n'a pas pu rester à Montréal justement à cause que il n'a pas réussi à s'entendre contractuellement. Et c'est un peu la raison pour laquelle je pense que Olivier Renard a décidé de quitter, parce que ces dossiers-là ont fait mal paraître l'organisation. Je parle de celle-là justement avec Wilfred Nancy, mais il y a également, rappelez-vous, là, il y a quelques semaines à peine, le Québécois Mathieu Chouanière, qui n'a pas été en mesure de s'entendre avec l'équipe, qui lui a demandé une transaction. Ce qui est malheureux là-dedans, là, c'est que lui, là, Chouanière, de son côté, demandait environ 600 000 $ Et on dit que du côté de Renard, on était prêt à lui donner, mais que la haute direction du CF Montréal voulait pas aller plus loin que le 350 000 $ Alors on a dit, savez-vous quoi? On va se séparer. Et ça, je pense que ça n'a pas passé. Puis je vais vous dire une chose. Je suis pas un expert dans le soccer, mais il y a une chose que je connais, c'est la gestion. Puis quand tu nommes une personne aux opérations, que tu lui donnes les clés de ton équipe et que tu lui dis c'est toi qui prends les décisions, puis qu'à chaque fois qu'il arrive pour prendre une décision, tu décides de t'en mêler puis de dire non, ça se passe pas comme ça, éventuellement, ça va casser, ça fonctionnera pas. Et c'est exactement malheureusement ce qui se passe avec Olivier Renard. Moi, je pense qu'on avait une bonne tête de soccer au sein du CF Montréal, un gars crédible, un gars qui a fait ses classes, et là, en se mêlant de ses dossiers, encore une fois, dans le cas de Chouanière, moi, je pense que c'est là que ça a été vraiment le coup d'épée, là. Je pense que ça a brisé les liens entre l'équipe. Et là, ça me ramène à vous dire que si jamais cette organisation-là veut être considérée comme une organisation sérieuse de la MLS, ben, il va falloir arrêter justement de changer puis de danser dans les bureaux administratifs à toutes les saisons, parce que c'est un peu ça. Et malheureusement, on dirait que ça fait pas sérieux. Et je connais pas M. Saputo personnellement, mais j'ai comme l'impression qu'il y a une tendance à vouloir se mêler des dossiers. Et malheureusement, si lui veut être directeur ou vice-président des opérations soccer, ben qu'il se nomme lui-même, c'est son club, il est propriétaire, il peut le faire. Mais pourquoi engager quelqu'un pour contester ses décisions, pour se mêler des dossiers qui font en sorte qu'au final, ça fait juste créer une zizanie à l'interne, puis ça fait en sorte qu'un gars comme Chouanière, un gars de chez nous, un gars qui a un statut de joueur vedette dans la MLS, quitte parce que lui, il se dit « je suis pas payé à ma juste valeur chez nous, je suis pas capable d'avoir le salaire que je veux ». Malheureusement, je trouve ça très, très dommage. Mais c'est malheureusement une tache noire ou un nuage de plus qui survole le CF Montréal. Et ça fait encore une fois un peu pas sérieux dans la MLS de voir que à l'aube d'une saison, on a le vice-président des opérations qui décide de quitter. Je trouve ça vraiment dommage, mais ça nous dit un peu dans quelle direction cette équipe-là est rendue.
Et là, on va parler d'une équipe de Montréal qui va bien. C'est dans la LPHF. Leur série débute là avec Boston.
Oui, si vous voulez des séries éliminatoires, cette année, il va falloir regarder la LPHF. Je parle pour les amateurs montréalais parce que ça commence ce soir entre Montréal et Boston. Une série qui va être intéressante, soyons honnêtes. Là, c'est deux équipes dans la Ligue nationale de hockey qui se détestent tout simplement.
Ben, c'est
qui a passé les décennies. Et on va voir, c'est la première, c'est les premiers pas en séries éliminatoires de la LPHF. Et c'est surtout une première confrontation Montréal-Boston qui débute ce soir. Moi, je pense que ça va être intéressant. Ça va être un duel en format 3-5. Ça commence ce soir, 19h, comme je vous le mentionnais. Les deux premiers matchs qui sont du côté de Montréal. Après ça, on va se transporter à Boston. Moi, je pense que ça peut créer justement un petit buzz. La ville de Montréal, en série éliminatoire, on est généralement derrière notre équipe. Mm-hmm. Et là, je vous dirais que c'est tout le Québec qui va être derrière la LPHF, oui. Derrière l'équipe de Montréal. Alors, je pense que ça va nous donner vraiment là un beau spectacle. Et c'est drôle parce que, tu sais, on critique souvent le manque de jeu robuste dans la LPHF. On dit, ouais, c'est une équipe mine, moins d'intensité, mm-hmm. moins, ça frappe moins. Et au contraire, là, si vous aviez vu les commentaires et les commentaires des joueuses là, à l'aube de ce match-là, écoute, ça donne le goût de regarder Marie-Philippe Poulin qui a dit, là, ça commence pour vrai. Le jeu physique va être la priorité des deux équipes.
Okay.
Va falloir gagner nos espaces sur la glace. Écoute, si on disait ça dans la Ligue nationale de hockey, tout le monde serait arrivé vers leur écran. Alors, je pense que ça vaut la peine de jeter un œil à ça. Ça commence ce soir, comme je vous disais. Premier match à Montréal, deuxième match à Montréal samedi. Et par la suite, ça va se transporter du côté de Boston. Et voyons voir peut-être que Montréal sera capable de se tailler une place en grande finale. Et peut-être, sait-on jamais, mais là, on met un peu la charrette en avant des bouts. Oui. Mais remporter le premier trophée de l'histoire de la LPHF, ça serait quand même quelque chose d'exceptionnel.
Et très rapidement, Toronto a quand même bien mis la table dans ce premier match de série hier avec une victoire en blanchiment 4-0. Est-ce que ce soir, d'après toi, ça va être un peu plus serré ou ça pourrait être aussi une victoire à sens unique pour une des équipes?
Ben, écoute, quand tu regardes la fiche de Boston et la fiche de Montréal, moi, je pense que Montréal a l'avantage, là, honnêtement, sur papier. Mais je m'attends à une série peut-être un peu plus compliquée. Ça ira pas en trois, selon moi. Je pense que c'est des matchs qui peuvent se rendre en quatre ou en cinq.
Okay.
Bref, tant aussi longtemps que cette série-là se joue dans les bonnes choses, c'est-à-dire du bon jeu, du jeu rapide, du jeu physique, moi je pense que ça va laisser place à beaucoup de beaux hockey. Puis l'autre chose qu'il faut pas oublier, depuis le début de la LPHF, les équipes qui sont dans le fond de classement gagnent contre les équipes qui sont en haut de classement également. C'est ça la beauté d'une ligue à 6 équipes, c'est que la parité est énorme. Mm-hmm. Alors, tu sais, il n'y a rien de fait pour l'équipe de Montréal, mais ça va être intéressant. Ça, c'est sûr et certain.
Eh bien, c'est à suivre ce soir, ce match. Merci beaucoup, Olivier.
Et hey, puis, si tu me permets, en terminant, Francis, juste avant de quitter, j'ai pas le choix de faire une mention. Là, je sors du monde du sport pour aller vers le monde culturel. Je veux juste souhaiter un lancement incroyable à Mathieu Langevin ce soir. C'est un gars de chez vous, c'est un gars de la place, c'est un ami personnel, c'est le parrain de ma fille, écoute, pour moi, c'est une fierté. Je sais que c'est une fierté à Maniwaki également. Je voulais juste faire une petite mention sur les ondes de CHGA pour la famille et les amis qui l'écoutent aujourd'hui. Écoutez, c'est tout simplement fantastique ce que Matt est en train de réaliser. Puis j'espère que les gens comprennent qu'il vient de remplir le MTLUS.
Hey, c'est
ça va
quelque
être
chose.
Sold out ce soir. Ça va être complètement sauté comme atmosphère. Un troisième album déjà pour Matt. Je veux juste dire que je suis excessivement fier de lui. Puis je me rappelle de nos soirées au Château Longue, à jouer de la musique, à faire des spectacles à l'antenne de CHGA. Ça a commencé là, puis aujourd'hui, Matt va remplir le MTLUS de Montréal. C'est complètement capoté.
Je pense que t'es pas le seul. Il y a plusieurs personnes dans la vallée de la Gatineau qui est bien fier de Matt Lang.
Absolument. Je suis totalement d'accord.
Merci beaucoup, Olivier.
Merci. Bye-bye.